Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. C'est parce que nous avons ce désir de chercher le Seigneur de tout notre cœur que nous nous mettons encore à l'écoute de sa parole, et en particulier de la parole que Jésus adresse à ceux qui veulent être ses disciples dans le sermon sur la montagne. Nous sommes dans l'étude suivie de ce texte et je vous invite donc à lire quelques versets que nous méditerons ce matin. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jusqu'ici, notre lecture. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous préserver du mal ? Quelle est la force, la vraie force de notre désir de mener une vie sainte? Jésus nous invite, si nous voulons être ses disciples, à savoir prendre des mesures énergiques pour lutter contre le mal en nous. Si ton œil, si ta main sont pour toi des occasions de chute, arrache-les, coupe-les. Jette-les loin de toi. Non, Jésus, non, tu ne peux pas dire cela. Toi qui es si doux, si humble de cœur. Non, Jésus, tu ne peux pas avoir des propos aussi excessifs. Toi qui enseignes les voies de Dieu avec tant de sagesse. Et pourtant, Jésus l'a dit. Et plus tard, il récidive. En ajoutant le pied, si ton pied est une occasion de chute pour quelqu'un, coupe-le. Matthieu 18. D'ailleurs, n'a-t-il pas pris le premier des mesures bien énergiques pour purifier le temple de Jérusalem et en chasser ceux qui y faisaient du commerce? Lui qui avait un tel souci de la pureté de la maison de son père, n'a-t-il pas le même souci pour le temple qu'est pour Dieu notre corps tout entier, si nous avons accueilli le Seigneur et qu'il fait de nous sa demeure. Alors quand même, rassurons-nous. Jésus était un orateur hors du commun. Il savait trouver les formules pour frapper les esprits, et celle-ci en fait partie. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. On exagère un trait volontairement, consciemment, pour marquer les esprits. Arracher physiquement un œil ne règle pas le problème du regard, il reste le second œil, et Jésus invite à le garder. L'image renvoie donc à autre chose qu'à une mutilation physique. Elle illustre les mesures énergiques, claires et coûteuses parfois, que nous pourrons être appelés à prendre pour lutter contre le mal en nous. C'est le message incontournable que véhicule cette image forte. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous préserver du mal? Quelle est la force, la vraie force de notre désir de mener une vie sainte? Jésus, dans ce passage, poursuit son appel à donner toute leur profondeur au commandement de Dieu. Déjà, il avait invité à approfondir le sens du sixième commandement du Décalogue, « Tu ne commettras pas de meurtre ». et la colère, avait souligné Jésus, contient déjà les racines du meurtre. Certaines paroles méchantes, dévalorisantes, font mal, blessent et parfois tuent. Et pour celui qui les prononce volontairement, les attitudes intérieures sont les mêmes que celles qui conduisent à un degré plus aggravé au meurtre. Il faut combattre le mal dès sa racine, nous dit Jésus, et c'est ainsi qu'il nous invite à lire l'ensemble des commandements donnés par Dieu dans la loi de Moïse. Et du sixième commandement, Jésus passe au septième. Tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est la même logique. Il y a l'acte concret, physique de l'adultère, avec l'engagement des corps dans la relation. Mais il y a aussi tout ce qui, en nous, est dans la même logique, dans la même ligne que l'acte, mais au niveau de nos pensées, au niveau de nos regards, au niveau de nos fantasmes cultivés. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, nous dit Jésus. Et voilà Jésus qui nous conduit sur un terrain bien secret et hyper personnel, ce qui se passe dans nos regards et dans les pensées qui accompagnent et colorent ces regards. Jardin secret, diront certains. Espace de liberté, réclameront d'autres. La parole de Dieu, pourtant, doit pénétrer jusqu'au plus intime de nous-mêmes. La sanctification, la transformation que Dieu opère en nous par son Esprit veut atteindre les zones les plus cachées, les plus sensibles de notre vie. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, priait David en s'humiliant pour son péché, au psaume 51. Et l'épître aux Hébreux renchérit au chapitre 4. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer moelle, jointure. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur, car tout est à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est, il faut le souligner, la parole de Dieu et l'enseignement de Jésus qui doit faire ce travail en profondeur. Aucun homme, aucun prédicateur n'a le droit de régenter notre vie intérieure. Ces choses-là se passent entre Dieu et nous. Mais il nous faut quand même parler de ce que Jésus nous dit. Et je parle d'abord comme quelqu'un qui reçoit cette parole pour ma propre vie, pour mes propres regards, pour mes propres pensées. Mais je n'ai pas à parler de moi d'abord. Nous avons à comprendre ensemble ce que signifie cette parole de Jésus. Nous recevons cette parole de Jésus dans une assemblée composée d'hommes et de femmes. C'est important d'en être conscient. Cela mériterait qu'on puisse discuter de la façon dont ces paroles résonnent en nous. Une chose est certaine, elles ne résonnent pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. On peut certainement, de manière légitime, inverser le propos de Jésus et de dire que toute femme qui regarde un homme pour le désirer a déjà commis adultère en son cœur. Je crois que ça, on peut le dire. Mais un homme qui regarde une femme et une femme qui regarde un homme, ce n'est probablement pas tout à fait la même chose, pas tout à fait les mêmes pensées, pas tout à fait les mêmes mouvements intérieurs. Masculin, féminin, la différence sexuelle est une réalité forte qui colore et qui polarise l'humanité. Elle est un grand don de Dieu. Une richesse qui apporte à nos relations tout un relief, tout un attrait, une polarité dynamique. Sans cette bonne différence, notre vie, nos relations seraient tellement moins riches, tellement moins intéressantes, tellement moins satisfaisantes. Je parle ici de la différence homme-femme dans toutes nos relations, personnelles, fraternelles, professionnelles. Le mariage et la sexualité permettent de vivre cette richesse jusque dans l'intimité, mais la différence sexuelle est un don de Dieu qui retentit sur toute la vie, sur toutes nos relations. Dieu créa l'homme en son image, il les créa en image de Dieu, homme et femme, il les créa, nous dit le texte fondateur de la Genèse. Et cette parole fondatrice nous dit combien la différence des sexes est bonne. Elle nous rappelle aussi que c'est la distinction irréductible au sein de l'humanité. Même si elle est une, l'humanité restera toujours homme et femme. Cette différence est aussi faite d'attrait et d'attraction. Des connivences se nouent de bien des façons dans cette proximité riche d'altérité. Attrait intellectuel pour deux formes de pensée différentes qui peuvent se féconder mutuellement. Les grands penseurs souvent aiment avoir un vis-à-vis de l'autre sexe, et c'est vrai à bien des niveaux et dans la réciprocité. Attrait de des sensibilités tellement différentes aussi, et qui rendent les choses que l'on vit en commun ou les échanges tellement plus diversifiés, tellement plus imprévisibles, tellement plus intéressants que si nous étions tous du même sexe. Diversité encore d'un rapport différent à son corps, à son apparence, à la beauté, la touche féminine dans la manière de s'habiller, de se coiffer, de faire naturellement d'un détail vestimentaire une petite œuvre d'art. C'est un foisonnement de créativité sans laquelle le visage de l'humanité serait bien terne. Même si un homme classe en impose aussi à sa façon. Et puis, il y a l'attrait de la diversité des corps, avec tout son retentissement intérieur, ses beautés différentes d'un sexe à l'autre, l'attirance émotionnelle devant certaines personnes du sexe opposé, la force des pulsions sexuelles qui sèment l'émoi intérieur, le charivari qui peut saisir lorsque se discernent ou se devinent certaines formes ou parties du corps de l'autre chargées d'attrait sexuel pour celui ou celle qui regarde. Nous sommes créés comme cela. Nous sommes construits comme cela. Nous sommes voulus par Dieu comme cela. Le mal s'y mêle aussi, bien sûr, et beaucoup, mais il s'insinue pour parasiter une bonne chose voulue par Dieu. Et c'est ce que le mal fait toujours de plus mal, parasiter les bonnes choses voulues par Dieu. Hommes et femmes, Dieu nous créa dans cette différence enrichissante et bienfaisante avec sa polarité d'attraction. L'homosexualité passe à côté de cette altérité fondamentale voulue par Dieu pour l'humanité. Et voilà sur ce fond les regards. Chez les humains, c'est surtout par le regard que se fait l'attirance sexuelle. C'est la considération de l'autre, dans le vis-à-vis qui est déterminante. Cette considération engendre plus qu'une simple pulsion animale, des pensées, des sentiments, des émois s'y mêlent. Ils poussent vers l'autre, ils rendent cette vision de l'autre attirante, désirable, admirative. On peut aussi toujours mettre une barrière et s'arrêter là. On peut choisir d'aller plus loin, vers le contact ou vers l'union. La sexualité humaine reste toujours une affaire de responsabilité, une affaire de choix. Elle ne s'épanouit que dans le consentement mutuel. Toute forme d'obligation ou de violation de l'autre implique une blessure, et ces blessures font partie de celles qui meurtrissent le plus profondément. Le cadre donné par Dieu à la sexualité est le mariage, l'engagement mutuel d'un homme et d'une femme dans une alliance d'amour en vue de former une communauté de vie. La sexualité peut y développer toute sa créativité amoureuse, dans une grande liberté, tant que le respect de chacun est garanti. Les regards, l'attrait des corps y ont leur place pleinement, parce que chacun se donne à l'autre dans la confiance et dans l'amour, et que cette confiance et cet amour sont respectés, et tant que cette confiance et cet amour sont respectés. Mais cette relation est exclusive. Cette intimité n'existe que pour le couple qui est appelé à y trouver l'une des forces vives de sa relation. Cette exclusivité, cette fidélité font partie du don de soi dans l'amour. Mais voilà d'autres regards que Jésus condamne. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Il ne s'agit pas de sa femme, mais d'une autre femme. Et ce regard, Jésus le déclare adultère. Adultère. Ça veut dire qu'un mariage a été trahi. Cela implique-t-il que cette question des regards ne s'applique que si l'un d'eux est marié ? Est-ce que cela veut dire que, par exemple, un célibataire qui regarderait d'un regard chargé de désir une autre célibataire n'entrerait pas dans ce que Jésus condamne ? Parce qu'il ne peut pas être question d'adultère entre deux célibataires. Faire cette distinction, c'est passer à côté du mouvement de la pensée de Jésus. Jésus ici commente le septième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le sujet donc qu'il traite, c'est le sujet de l'adultère, parce que le commandement parle de l'adultère. Mais Jésus ajoute déjà que un regard chargé de désir sexuel est déjà dans la logique d'un adultère, même si l'acte lui-même n'a pas été commis. Le but de Jésus est donc d'aller aux racines du commandement sur l'adultère, et non pas de distinguer entre personnes mariées ou personnes célibataires. Ce qui veut dire que si l'on applique cette parole de Jésus au célibataire, il faudrait dire « L'homme célibataire qui regarde une femme célibataire d'un regard chargé de désirs sexuels a déjà forniqué avec elle dans son cœur. » C'est comme cela, me semble-t-il, qu'il faut appliquer cette parole aux autres situations. Quel est donc ce regard chargé de désirs que Jésus déclare coupable? Est-ce un regard sensible à la beauté de la personne de l'autre sexe? Est-ce un regard, deuxième étape, qui se charge de pensées sexuelles en relation avec cette personne, mais sans envisager la moindre concrétisation physique? Ou est-ce, troisième étape, un regard qui fait un pas de plus et qui entre déjà dans une stratégie de mentale, de conquête et de séduction qui développe déjà les moyens ou les étapes en vue d'une telle relation? C'est pas facile de décider, mais ça a quand même des incidences sur ce que ça veut dire très concrètement pour nous. Comment décider? C'est, me semble-t-il, le contexte qui nous aide à décider. Et le contexte à prendre en compte ici, c'est, me semble-t-il, l'analogie avec ce que Jésus a dit sur la colère et le meurtre. La colère est déclarée meurtrière, même si elle n'a pas le but explicite de tuer, même si elle se dit qu'elle n'ira jamais jusqu'au meurtre. Jésus la déclare quand même meurtrière. Et j'appliquerai, me semble-t-il, cela au regard chargé de pensée ou d'excitation sexuelle, même s'il se dit que jamais il ne cherchera à concrétiser une quelconque relation. Quand on fait cela, en son cœur, quand on s'adonne à cela, on fantasme sur l'intimité de cette personne, on se laisse emporter par ses pensées, on commet l'acte en son cœur, même si on se dit on ne va pas aller plus loin. C'est le cas de la pornographie. L'écran ou la revue empêche une relation personnelle, c'est évident, n'empêche. On se projette dans des pensées où tous les ingrédients d'une relation intime sont réunis. Il en va de même du voyeurisme. Le voyeurisme, c'est du côté de celui qui le pratique, chercher à pénétrer l'intimité d'une personne sans son consentement. Même si cette personne ne le sait jamais, c'est ce qu'on a fait. On a violé son intimité sans son consentement. Jésus nous met en garde contre ces choses-là qui se passent en nos cœurs. Quels sont les principes en cause dans ces questions? Je vous en propose deux. Le premier nous concerne dans la gestion de nos pensées. Et ce principe pourrait être dit de la façon suivante. Je ne m'adonnerai pas dans mes pensées à des choses que je sais être mauvaises en acte. Je ne m'adonnerai pas dans mes pensées à des choses que je sais être mauvaises en acte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, nous demande Jésus. Je ne peux donc pas cultiver n'importe quoi dans mes pensées, sous prétexte que ce ne sont que des pensées. Le Seigneur a en horreur certains actes. Cela l'attristera de voir que ces mêmes choses, je les cultive moi dans mes pensées, moi qui suis son enfant. Nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous si nous laissons habiter dans nos pensées des choses qui seraient condamnables si nous les commettions. Et rechercher la sainteté, c'est travailler aussi à cette cohérence-là. Je ne m'adonnerai pas dans mes pensées à des choses que je sais être mauvaises en actes. Le deuxième principe concerne la personne que je regarde. Il est essentiel de nous rappeler que le propre d'une personne humaine, c'est qu'elle s'appartient. C'est ça ce qui fait une personne. Une personne humaine s'appartient et elle doit pouvoir choisir elle-même à qui elle veut se donner. C'est cela, être une personne, s'appartenir et pouvoir choisir nous-mêmes à qui nous voulons nous donner. Ce qui veut dire que personne n'a le droit de s'approprier d'aucune façon une personne sans son consentement. Je peux m'approprier un objet, une chose, mais pas une personne. Et il me semble que ce principe du respect de la personne concerne nos regards aussi et notre imaginaire, car l'intimité d'une personne lui appartient à elle et à qui elle choisit de le partager. Et cela doit être une limite à mon regard, à mon imaginaire. Ne pas respecter, y compris dans mon imaginaire, l'intégrité d'une personne, c'est une violation pour moi qui le commets. Je ne dois pas me permettre cela, ni dans mes pensées, ni dans mes regards, et encore moins dans mes actes, bien sûr. Il me semble que cette question du respect de la personne qui s'appartient et qui doit pouvoir se donner à qui elle choisit de se donner est une barrière efficace à nous donner face à tous les fantasmes ou toutes les pensées que nous pouvons avoir. J'ai énoncé deux principes que je crois importants et protecteurs. Mais sommes-nous toujours dans le « tu ne dois pas », dans l'interdit de tout regard où la dimension sexuée serait présente? Devons-nous toujours être dans la lutte personnelle ou dans la crainte d'un regard un peu captateur sur une personne de l'autre sexe? N'y a-t-il pas des apaisements possibles pour nos regards? Un premier apaisement est possible, me semble-t-il, là où on sait que règne le respect du commandement moral, du respect de l'autre, là où on sait qu'est respecté le mariage, que sont respectées les personnes, que sont respectées la parole que Dieu nous adresse. Et c'est une grâce et une liberté de pouvoir des relations où l'on sait que tout est cadré, que l'on veut marcher dans le respect de l'autre, que l'on veut marcher dans des relations où l'on a des pensées justes et saines, les uns à l'égard des autres, entre hommes, entre femmes. Cela garantit, cela favorise une liberté de relation. Cela permet d'être homme et femme de manière plus apaisée et plus sereine ensemble. Alors cela n'enlève pas les vigilances, car le mal peut s'insinuer. Mais quand on sait qu'on partage ces valeurs, les relations ont de bons fondements pour se vivre de manière apaisée. Heureux celui qui marche dans les commandements du Seigneur, nous avons lu dans le psaume 119, c'est une joie, c'est une sécurité que de savoir que nous voulons marcher dans les commandements du Seigneur sur ce point-là. Un autre apaisement est d'apprendre à valoriser la beauté d'une personne, y compris pour ce qui, en elle, peut aviver ma sensualité. C'est une forme de filtrage, une forme de purification de notre regard. On met à distance la dimension d'attrait sexuel pour ne garder que le regard sur la beauté. Si le mal n'était pas, c'est ainsi que les choses pourraient se passer. Il n'y aurait que la beauté de la différence des sexes et de tout ce que ça apporte comme attrait. Il n'y aurait aucune captation de l'autre. Et nous pouvons, me semble-t-il, aussi travailler à cet équilibre intérieur. C'est l'une des façons qui peut nous aider à poser un regard sain sur bien des images ou bien des visions que nous ne choisissons pas mais qui nous sont imposées par la publicité omniprésente, par exemple. Il faut apprendre à traverser ces réalités en n'étant pas toujours troublé, en étant dans la paix, sans toujours être secoué, malmené, culpabilisé. Nous devons apprendre à fortifier notre regard. Et le regard qui sait voir la beauté est certainement quelque chose qui nous fait aussi avancer dans l'idée d'une manière plus apaisée, plus saine de voir les choses. Un autre apaisement dans nos relations concrètes sera d'apprendre à considérer la personne en face de nous dans tout ce qu'elle est, dans ce qu'exprime aussi son visage, dans sa richesse personnelle. Apprendre en somme à zoomer large pour garder toujours le respect et l'appréciation de la personne dans son intégralité et éviter le regard captateur. Jésus nous appelle à la vigilance, mais il ne s'agit pas de culpabiliser et de brimer tous nos regards. Il nous faut fortifier nos regards dans la pureté, dans la considération de la beauté. Il nous faut purifier nos regards, les filtrer peut-être comme un médecin qui filtre son regard pour être et rester professionnel. Il nous faut apaiser nos regards, apaiser les relations, tout en aimant la différence, la diversité des sexes et ce qu'elle apporte aux relations humaines. Mais Jésus nous dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Et cela veut dire que nous devons savoir prendre des mesures radicales vis-à-vis de nous-mêmes, là où nous nous adonnons à des regards coupables, ou là où, à cause de ce que nous voyons, nous sommes en danger. Nous devons apprendre, quand il le faut, à couper net. Nous devons apprendre à prévenir. Nous devons apprendre à ne pas jouer avec le feu. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, rends-toi aveugle. » Jésus ne dit pas cela. Jésus ne parle que de l'œil coupable. Cela veut dire, prends des mesures nettes dans les domaines où tes regards sont coupables. Oui, là tu dois être très net, mais n'arrête pas de garder le regard. Fais attention là où ton œil est coupable. prends des mesures nettes, cela veut dire jette les revues si tu en as qui te font du mal. Ça veut dire évite les chaînes ou les horaires où tu zapperais sur des émissions coquines ou plus hardes. Cela veut dire va lire un livre les soirs où tu sais que tu ne résisteras pas à la télé. Cela veut dire désabonne-toi des bouquets qui intègrent des chaînes qui seraient une tentation pour toi. Cela veut dire refuse net certains fantasmes, certains regards, certains actes dans tes relations interpersonnelles. Mets en œuvre de vraies stratégies pour garder ton regard. Oui, fais tout cela et donne cette force concrète à ton désir de plaire à Dieu. Mais garde l'autre œil que le Seigneur t'a donné. Garde l'autre œil que le Seigneur t'a donné, fais-en bon usage. Apprends à voir, à apprécier la beauté d'une personne. Accueille cette beauté là où elle est donnée. Ne te rends pas aveugle, mais assainis ton regard. Affermis ton regard. Et compte sur l'Esprit de Dieu pour travailler aux sources de ton être si tu désires vivre la sainteté aussi sur ce terrain. Garde ton œil pour pouvoir le purifier. Ne te rends pas aveugle. Mais prends des mesures là où il faut les prendre. Un dernier mot. Jésus, en parlant du regard que l'homme porte sur la femme, n'incrimine pas la femme, mais il demande à l'homme de veiller sur lui-même. C'est important et c'est magnifique qu'il en soit ainsi. Jésus ne tombe pas dans le travers qui fait de la femme la tentatrice et la cause de tous les maux. Chacun a sa responsabilité. Chacun doit gérer ce qui le traverse. Et c'est pour cela que les chrétiens ne voileront jamais les femmes. Les chrétiens ne voileront jamais les femmes. Et cela, il faut le dire, de manière très forte, de manière très nette. C'est à chacun de veiller sur lui-même pour des relations saines. Mais puis-je ajouter quand même à cette affirmation forte et nécessaire un petit complément. Dans un autre passage, et à propos d'autre chose, Jésus parle de notre main ou de notre pied qui peuvent être, non pas pour nous, mais pour d'autres, une occasion de chute. Et là aussi, Jésus dit, si tu es pour d'autres une occasion de chute, coupe la main ou le pied qui peut être occasion de chute. Si par eux, tu fais tomber quelqu'un. Et l'application, me semble-t-il, à notre sujet est de veiller par réciprocité à éviter les tenues provocantes. Je parle ici peut-être aux femmes, mais peut-être globalement. À éviter les tenues provocantes, à refuser d'attirer le regard par le biais du sex appeal, à refuser de jouer de l'attrait sexuel pour troubler, pour tenir à ma merci, pour jouer avec l'autre et ce genre de choses. Ça existe aussi. Tous ces jeux de la séduction, tous ces jeux où vraiment on essaye d'avoir un pouvoir sur l'autre par ce moyen-là. Alors, il ne s'agit pas ici, et surtout pas, de légiférer sur la longueur des jupes ou de dire qu'il faut refuser la mode. On a vu trop de dérives légalistes bien affligeantes dans ce domaine. Mais il s'agit, me semble-t-il, d'un principe de réciprocité. Nous devons nous aider ensemble, hommes et femmes, à vivre dans la sainteté. Et nous devons faciliter des regards sains et libres. Et c'est, me semble-t-il, le sens biblique de des invitations à la décence. Mais décence ne veut surtout pas dire s'habiller triste. Il y a une place, il reste toujours une place pour la beauté, pour la créativité, pour la personnalisation. Il y a place surtout pour des attitudes responsables de part et d'autre en vue de relations saines. Comment conclure ? J'ai envie de dire deux choses. Ayons à cœur la sainteté. Ayons à cœur d'aimer le Seigneur jusque dans toutes nos pensées. Recevons aussi la grâce de Dieu pour nous purifier et nous aider à progresser. Ayons à cœur cette sainteté. Mais n'oublions pas la beauté de ce que Dieu a fait. Valorisons-la, cette beauté. Apprécions-la. Préservons-la dans toutes nos relations, dans toutes nos manières d'être. La sainteté n'est pas une qualité austère. La sainteté trouve sa joie dans la beauté et dans les feux d'artifice de la diversité. Amen.